Préparez vos valises. Thierry Georges vous propose une nouvelle escale sonore dans Suivez le guide.
Matka, mate, priatelia, hovorte po masi.
Vítejte v České republice. Bienvenue en République tchèque.
Bienvenue à vous. Ahoy, Suivez le guide vous invite à découvrir la République tchèque. Prague fait partie des destinations européennes touristiques majeures et il y a foule sur le pont Charles en plein été. Le reste de ce petit pays de 79 000 km² demeure plutôt méconnu des visiteurs étrangers et pourtant, les attraits touristiques sont nombreux. Nous en avons découvert quelques-uns à la fin des années 10, mais il manquait Prague. Voici la session de rattrapage.
Bienvenue à Prague.
Le 1er mai 2004, la République tchèque devient membre de l'Union européenne. Prague nous rappelle le printemps de Prague. Le nom de Jan Palach est connu de tous. Cet étudiant en histoire qui s'est immolé par le feu, place Venceslas, le 16 janvier 1969, nous l'évoquerons dans cette nouvelle émission. 2018 marqua le centenaire de la naissance de la Tchécoslovaquie, qui fut dissoute en 1992, une dissolution surnommée « divorce de velours ». Nous débutons ce quatrième Suivez le guide sur le petit côté du cœur historique. Petit côté, c'est la traduction littérale de Malastrana, un quartier fondé par le roi Ottokar II de Bohême en 1257. Nous avons également rendez-vous dans un café tout proche du Théâtre National, de l'autre côté de la Moldau, ou à rivière Vitlava, dans le quartier historique, le Café Slavia, de style art déco, où nous ferons la connaissance d'Aleš Pohorský. Nous allons partir à la découverte de Prague. Je rencontre notre guide. Je vais te demander de te présenter, mais en tchèque.
En tchèque, d'accord. Moje jméno je Jarka Nováková, Jaroslava Nováková. A pracuji v Praxity Tourism. To je organizace, která pečuje o pražské turisty.
Et donc, si on donne la version française?
Alors, mon nom est Jarka ou Jaroslava, le nom officiel, c'est Jaroslava Novakova.
Tes amis t'appellent Jarka?
Oui, c'est ça. C'est vraiment diminutif de mon nom. Et comme ça, à la maison ou bien pour mes amis, je suis Jarka. Et je travaille à l'office du tourisme de Prague, Prague City Tourism.
Jarka, nous allons entrer dans l'église Notre-Dame de la Victoire, qui est une église qui attire un nombre important de visiteurs, mais de pèlerins aussi.
Les deux. C'est grâce à la petite statuette de l'enfant Jésus de Prague, qui est vraiment très, très réputée.
On va la voir. On peut monter.
On y va.
Allez,
on y va.
Montons.
On va y aller, on va monter des escaliers. Et on va entrer dans un bâtiment qui avait été réalisé après la bataille de la Montagne Blanche. L'histoire de Prague de l'époque de 17e, l'histoire de l'opposition contre des Habsbourg. Et en même temps aussi, c'était la question de s'opposer de l'Église catholique à l'époque.
On baisse la voix parce qu'on est entré dans l'église.
C'est une église qui est très chargée.
Ah oui.
C'est une église typique pour le style du baroque. Alors, on y voit vraiment beaucoup, beaucoup de chapelles qui sont des chapelles latérales avec des autels qu'on voit vraiment très chargés, dorés, typiques de point de vue des couleurs, c'est-à-dire de la couleur noire et de la couleur dorée. Et on voit beaucoup, beaucoup aussi des différentes parties qui sont pleines de la peinture du baroque. Mais l'autel principal qu'on voit en face de nous, c'est incroyablement riche, incroyablement chargé.
Oui, mais c'est pas la sobriété du tout ici. Hein.
Ouais. Oui.
«
crois que nous, on va vraiment jeter un coup d'œil.
On va voir le petit Jésus.
Petit
Jésus, il est où? Moi, je le devine pas, mais s'il est petit, en même temps, c'est un petit Jésus qui est petit.
Voilà, c'est ça.
Donc, il est un peu caché, peut-être, je ne sais pas.
Oui, c'est vraiment caché parce que c'est très petit. Et sans savoir, on ne le voit pas. Ici à droite, on voit cet autel avec la statuette de l'enfant Jésus. Une statuette en cire de 40
centimètres. Ça y est, oui, effectivement, parce que l'autel est énorme.
Voilà, voilà.
En marbre, c'est du marbre.
C'est 47 centimètres.
47 centimètres.
Voilà. On voit que la petite statuette est habillée dans un vêtement spécialement préparé pour lui. C'est-à-dire, on a en face de nous la statue qui date de la moitié du XVIe siècle, un cadeau qui est venu de l'Espagne comme un cadeau de mariage à Prague. Et on voit vraiment la belle statue dont les parties sont protégées par le vêtement même, bien brodé. On ne voit que la tête et les deux petites mains qui sont là.
Donc qui sont en cire.
Et on voit la petite couronne.
Ouais, un petit Jésus, un enfant Jésus couronné.
Voilà. Et je crois que ça, ce qui étonne un peu, c'est aussi le vêtement qui est spécialement très richement brodé. Ici, à l'église, existe un petit musée des vêtements de l'enfant Jésus.
Ah oui, parce qu'on le change de temps en temps.
De temps en temps, on le change, oui.
Ouais, une tenue d'été, une tenue d'hiver?
Non. Mais on a les vêtements des couleurs de l'année ecclésiastique.
Ah, d'accord. Ouais.
C'est-à-dire, on le change pour les grandes fêtes, on le change pour la fête de Noël, on le change pour la fête de Pâques. C'est-à-dire, on choisit des couleurs vraiment spéciales. Et il faut dire que les cadeaux pour cet enfant Jésus, c'est incroyable. Il y a dans le musée, par exemple, un vêtement de cow-boy. Parce que les Américains, les Tchèques, qui vivent en Amérique, dans les États-Unis, ils ont offert comme un cadeau, vraiment.
Et est-ce qu'on l'a habillé avec le vêtement? Peut-être pas. Hein.
Je ne crois pas.
Non, peut-être pas.
Ce n'est qu'un cadeau, une présentation.
Et on vient plutôt prier, se recueillir. Il y a des raisons précises,
prier,
demander quelque chose de précis.
On arrive pour vraiment demander. Bien sûr, les gens croient que cette statuette peut leur aider, que l'enfant Jésus
exauce
un intermédiaire pour pouvoir leur aider.
Mais d'ailleurs, il y a des ex-voto, des plaques, je suppose, qui signifient que les vœux ont été exaucés. Enfin, c'est
voilà,
ça.
C'est ça.
Il y en a plein.
Pour remercier. Il y
des remerciements.
Beaucoup,
ouais.
Voilà. Et ici, il y a alors le prier. Hein, dans toutes les langues que vous pouvez imaginer, c'est marqué dans quelle langue.
Je vois la version française.
Voilà,
c'est la prière. En fait, c'est la prière de Benoît XVI. C'est une photo un peu comme un tableau. La date, le 26 septembre 2009, est venue Benoît XVI. Le 26 septembre. Pourquoi là, je vois septembre, mais là, c'est marqué le 26 décembre. Ah, ça, c'est une erreur dans la version française. Parce que c'est marqué décembre, mais c'est septembre.
Alors là, c'est vraiment la faute, c'est vrai.
Ouais. Donc le 26 septembre 2009. Voilà, thank you, dans plusieurs langues, gracias. Ah ben, voilà une découverte dans cette église Notre-Dame de la Victoire. Yarka, je dois rouler le R parce que je dis Yarka. Yarka?
Non, c'est pas nécessaire.
C'est pas nécessaire.
Je dis aussi Yarka.
Tu dis Yarka. Ouais, bon. J'essaye à chaque fois autre chose. Yaroslava. Ah, oui. Alors Yaroslava ou Yaroslava?
Yaroslava.
Yaroslava. Tu ne roules pas les R. Non, tu parles parce que tu parles à la française, c'est pour ça. Tu es trop française. Yarka, peut-on dire, mais tu vas me répondre oui, que Prague est une ville musée? Parce qu'on passe d'un bâtiment exceptionnel à un autre dans cette partie-là de la ville. C'est pas partout, mais dans cette partie plus historique, plus ancienne, on passe d'un joyau à un autre. Hein.
C'est vrai que ce quartier spécialement, le quartier de Malastrana, même que aussi la vieille ville de Prague, ce sont des villes musées. On peut le dire très simplement, répondre sans avoir de difficulté de le constater, parce que on est vraiment à chaque pas entouré par des maisons qui sont magnifiques. on voit des choses qui sont décorées incroyablement. La richesse de ces différents styles architecturaux, en plus les plaques commémoratives qui nous racontent que des fameuses personnalités avaient vécu là ou là, par exemple en face de nous ici. Oui,
parce qu'on le reconnaît de loin. Il faut reconnaître que son visage est connu, je pense, de tous.
Oui.
Avec la chevelure, sont ses cheveux aussi qui font qu'on l'identifie de loin.
Oui.
Il fait très pop star.
C'était, oui. Il fait encore toujours, faut-il dire. Parce que, encore toujours, lui a beaucoup d'admirateurs, je crois, de sa musique. Ludwig van Beethoven en a donné plusieurs concerts. À Prague, avait vécu dans un hôtel dont le bâtiment, on voit ici en face de nous, on est sur une toute petite place avec l'église des Chevaliers de Croix de Malte. Et on voit vraiment, en tournant, à chaque pas, on voit des bâtiments ou bien des statues qui sont intéressants. Là, par exemple, en face de nous, la statue de Saint-Jean. On voit aussi à gauche le bâtiment d'une école qui date de la période du 19e siècle. Et en plus, c'est l'école pour des handicapés, pour des aveugles. Je crois que le rôle de cette école est encore plus important.
Mozart a séjourné aussi à Prague, puisque c'est à Prague qu'a été créé Don Giovanni.
Wolfgang Amadeus Mozart avait composé pour Prague cet opéra Don Giovanni, mais je crois qu'il vaut mieux en parler étant de l'autre côté de la rivière.
Bon, alors Wolfgang, tout à l'heure, restons avec Ludwig. Alors il y a de nombreux concerts, alors il y a les grands concerts, mais aussi il y a des petits concerts un peu partout.
C'est vrai, Prague est aujourd'hui, même aujourd'hui, c'est la ville qui est très 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 influencée par la belle musique. La musique classique, même que la musique tout à fait actuelle. Bien sûr, si on peut se souvenir dans la dernière période, c'est-à-dire les dernières années, ce sont tous les grands stars qui assistaient ici à Prague. C'est-à-dire Rolling Stones, Queens.
Avec Michael Jackson, était-vous ?
Michael Jackson aussi, hein, oui. Bien sûr.
Je crois que c'était un concert retransmis à la télévision. Je ne suis plus sûr si c'était celui de Prague qui avait été retransmis à la télévision.
Oui, je crois que oui, parce que c'était le début de son grand show qui avait commencé vraiment ici à Prague, continuant dans des autres villes.
Il faut dire aussi qu'après la période donc pro-soviétique, pour tous ces groupes-là, ça a été important et très symbolique de venir jouer ici.
C'est vrai. C'est vrai parce que les premiers qui sont arrivés, c'était des Rolling Stones, qui est venu par l'invitation personnelle de Václav Havel. Il faut dire que c'était vraiment quelques mois après la révolution de velours, c'est-à-dire en été 1990, et c'était pour des Pragois, pour des Tchèques, un grand symbole.
Tu y étais ?
Un symbole, oui. J'étais là, bien sûr. Absolument. C'était nécessaire. Hein. C'était quelque chose qui signifiait que c'est fini. Que c'est fini avec ce régime qui était tellement détesté qu'il faut faire venir la liberté.
Et aujourd'hui, on est de nouveau inquiet parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver. En tout cas, l'Europe est inquiète. Et je pense que plus on va vers l'Est, plus on est inquiet. Et quand on est dans les pays frontaliers, on l'est encore davantage, bien évidemment. Donc, cette période que nous traversons depuis l'invasion en Ukraine fait remonter des souvenirs qui ne sont pas que des bons souvenirs, forcément, à toute la population tchèque.
Sûr. Sûr, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui avaient survécu l'occupation de Pâques de Varsovie avec des soviétiques au mois d'août 1968. Et c'était une période qui était très difficile. Et bien sûr, il y a des gens qui supportent pas facilement ça, ce qui se passe dans nos jours.
Mais à Prague, on l'entend un peu de loin, mais à Prague, on chante.
C'est vrai, on chante et on donne beaucoup de concerts.
Nous retrouverons Jarka dans ce sujet, le guide pragois. Mais il est temps de faire connaissance avec Aleš, qui m'a donné rendez-vous au Café Slavia, en face du Théâtre National. Café qui ouvrait ses portes en 1884.
Právě posloucháte Radio Blaník na frekvenci 87,8 pro Prahu a střední Čechy.
C'est amusant de commencer un enregistrement à Prague avec un pianiste qui joue la musique de Francis Lai, Un homme et une femme, le film de Claude Lelouch, ici à Prague. D'abord, moi j'aimerais bien apprendre à prononcer correctement votre nom.
Oui, alors je m'appelle Aleš, c'est mon prénom.
Aleš.
Oui, et mon nom c'est Porsky.
On va s'en rendre compte au fur et à mesure que nous allons avancer dans la conversation, Aleš. Aleš Porsky, vous êtes tchèque, mais si j'enregistre une conversation avec vous sans dire que vous êtes tchèque, personne ne va le deviner, parce que vous êtes un tchèque sans accent.
Non, j'ai de temps en temps une petite hésitation.
Mais vraiment petite, hein.
Merci, c'est gentil.
On est dans une brasserie, ici dans un café,
oui.
Un café historique de Prague, mais on serait dans une brasserie parisienne, ce ne serait pas la même ambiance, mais ce serait tout à fait crédible. Vous m'avez donné rendez-vous, Aleš, vous avez accepté ce rendez-vous, et vous m'avez donné rendez-vous près du Théâtre National. On est dans un environnement très riche sur le plan historique ici. Hein.
Exactement, mais c'est-à-dire le théâtre lui-même... C'est de la néo-renaissance, mais cela signifie aussi la renaissance de l'existence de ce pays. En réalité, c'est le renouveau, donc la renaissance.
Ouais, donc un bon théâtre magnifique, superbe, avec des spectacles de qualité. Moi, j'ai eu le bonheur de voir Onegin hier soir le ballet. C'était une grande soirée. On est à 5 minutes à pied du pont Charles.
Une dizaine, oui.
Ouais, ça dépend si on court, si on marche vite.
Ça dépend, oui, évidemment.
On est environné de bâtiments remarquables, mais dans ce café qui, de lui-même, peut nous raconter son histoire.
Premièrement, les comédiens du théâtre en face, il faut vous expliquer que ce théâtre, c'est notre première scène nationale. Ça correspond plus ou moins à la Comédie Française.
Comédie Française et le Palais Garnier, parce qu'on
et
pense aussi...
Le Palais Garnier, réunis.
Réunis.
Réunis, oui, exactement.
Ils sont proches aussi à Paris, hein. Mais là, on n'en fait qu'un.
Et alors, les comédiens allaient se reposer dans ce café. Et puis, il y avait aussi les écrivains. C'est réellement un lieu de rencontre, comment dire, de la bohème. Les deux accents possibles.
C'est ça, la bohème au royaume de Bohème.
Exactement, oui.
Ouais. Mais alors, les danseurs du ballet ne viennent pas boire ce que je fais moi, je prends une bière, c'est la fin de la journée. Oui. Les danseurs du ballet ne viennent pas boire des bières avant le spectacle. Normalement, non.
Si possible, non, évidemment.
Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. Poštovní známky, i bločky na poznámky, i télecí plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente.
Et puis, écoutez, Aleš, je vois quelqu'un qui nous regarde là. Je ne sais pas ce qu'il pense, mais il y a quelqu'un qui nous fixe du regard.
Cette personne qui nous surveille, si j'ose dire, c'est notre ancien président, depuis qui est déjà parti, si j'ose dire, c'est Václav Havel, oui, le président de la République, qui rencontrait ici, encore de l'époque de sa dissidence, ses amis, ses collègues, pour essayer de comprendre, pour établir un plan, comment faire pour continuer dans les années un peu difficiles.
Václav Havel, c'est un buste, hein. Précisons, c'est un buste, un bronze de Václav Havel, oui. Et il est vraiment... complètement dirigé, vous asseyez là pour avoir des...
Il nous fixe.
C'est pour ça, c'est votre endroit préféré ici.
Oui, bah, je viens de temps en temps, effectivement. Donc, oui.
Vous avez des conversations avec Václav Havel?
Ça m'arrive, oui.
Cela dit, vous l'avez connu?
Non, pas personne.
Vous ne l'avez pas connu?
Je l'ai vu de près, croisé. Mais je l'ai croisé, c'est le mot, oui, exactement.
Sachant que donc, c'est plutôt, et quand je vois les photos, c'est plutôt un café d'intellectuels ici.
Exactement, oui. Alors vous voyez tout près les écrivains que malheureusement en France on ne connaît plus, Nesval, c'est un représentant de la poésie surréaliste.
On ne les connaît pas trop, il faut bien
oui,
reconnaître.
Évidemment, hein. Oui.
Ce sont des photos qui, pour certaines, je pense, ont été prises ici, dans le café.
Exactement, oui.
Et puis, vous m'avez montré, avant qu'on s'assoie à Lèche, une créature qui rend visite parfois aux clients. Mais était-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Je ne sais pas trop, finalement.
Oui, alors vous parlez très certainement de ce portrait, de cette peinture en huile, qui représente la fée verte, c'est-à-dire l'absinthe, évidemment, et puis le poète assis devant elle et qui regarde à travers cette femme
transparente.
Elle est verte.
Un peu verte, elle est pas, c'est verte. Pas une martienne, c'est pas une martienne, mais,
oui,
elle,
oui,
mais elle est verte.
Oui, oui, oui.
Bon, elle a probablement inspiré les poètes, mais elle les a un peu déglingués, enfin, détruits aussi.
Ah oui, mais tout le monde la connaît.
Zvize, fuck off. Nejradši mám, když zvíře chcípne. Když sebou škubne, naposledy pípne. A když se vypne, ty ten krk flipneš. Když se buš kupe, ty ten krk chytneš. Propaguju násilí na ženách. Propaguju násilí na ženách. Propaguju násilí na ženách. Propaguju násilí na ženách. Nejlepší je, když jí dáš ten backhand.
Alors ici, on est vraiment au cœur de Prague. On parle français avec vous, Aleche, mais on va essayer de raconter comment se fait-il que nous parlons français ensemble. Était-ce déjà votre papa, vous allez me le dire, mais vous avez grandi dans un... Je suppose que... Je ne sais pas comment c'était chez vous quand vous étiez enfant, mais je me dis qu'il devait probablement y avoir des livres partout, non ?
Bah oui, j'en ai toujours partout. Je ne sais pas, peut-être une vingtaine de mille...
Oui, c'est ça. Pas une vingtaine, mais une vingtaine de milliers.
À la maison... que je n'ai jamais lu, en partie.
Parce que votre papa, est...
il était...
historien, oui. Littéraire...
Exactement, vous êtes au courant, oui. Une maison d'édition qui s'appelait Spitzer Martin, et qui siège à côté, vous voyez...
C'est un peu votre quartier d'enfance, ici.
C'est un peu mon quartier d'enfance, oui, ouais. C'est vrai.
Donc les chiens font pas des chats, la littérature, c'est votre environnement aussi.
L'intérêt pour la littérature, à travers les livres, c'était comme une sorte de religion. Ça remonte à mes grands-parents qui n'étaient pas vraiment littéraires formés, mais qui lisaient tout le temps. À l'époque, on lisait tout le temps. Il y a 60 ans, mettons. Je me souviens que ma grand-mère lisait en mangeant sa soupe, par exemple. Elle avait son livre appuyé contre la casserole, vous voyez.
Encore faisait attention de ne pas trop tâcher. Alors, il y a peut-être dans les livres, il y a peut-être encore des taches de soupe. Hein.
Oui, justement, oui. Et puis le français. C'était également comme une sorte de vision du monde.
Le français. Parce qu'effectivement, il y a la littérature, mais si on zoome avant, c'est beaucoup la littérature française. Enfin, tchèque, bien oui. Sûr. En même temps, c'est la vôtre. Mais également aussi la littérature française.
Il faut comprendre que la langue qu'on parle ici, ce n'est ni l'allemand, ni l'anglais, ni le français. C'est le tchèque, qui n'est pas une langue germanique. Qui n'est pas non plus une langue romane, c'est une langue slave, mais nous avons toujours vécu entourés et accompagnés et pénétrés de la culture allemande. Ce pays était toujours plus ou moins bilingue dans le passé, et puis parfois, pour se distinguer de cette présence parfois trop intense, nos ancêtres s'étaient tournés toujours vers la France et non pas vers l'Angleterre. Parce que, à l'époque, c'était pas. Je me souviens, par hasard, on avait sélectionné notre école de quartier. On nous avait proposé plusieurs langues. J'ai opté pour le français. On nous avait également proposé l'anglais. Et on avait spontanément choisi le français. Ce qui est assez étonnant. Aujourd'hui, on ne comprend plus. Hein.
Allez, aujourd'hui, c'est plus, les choix sont plutôt inverses. Hein.
Bah oui, bah vous passez du théâtre national, que nous avons ici en face, et puis vous allez jusqu'à ce qu'on appelle la place Venceslas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout est en anglais. C'est partout pareil. Hein. Je sais qu'en France aussi, les magasins ne sont pas ouverts, mais open, etc. Donc, c'est omniprésent. Merci,
lipká zelená mezi horami
Vous êtes né dans les années 50. Ici, donc, c'est ce qu'on appelle la période, alors comment dit-on, la période communiste, comment dites-vous?
Communiste, c'est beaucoup trop dire. Hein,
communiste, c'est trop?
Communiste, c'est trop. Parce que le communisme, je ne sais pas ce que ça veut dire finalement. Je connais un peu l'histoire française, je sais qu'au 19e, ça signifiait quelque chose. Mais en même temps, ça veut dire que tout se partage, y compris dans les visions vraiment idéalistes.
C'était l'idéal, ouais. C'est pour ça que beaucoup d'intellectuels, de personnes ont adhéré au communisme. Alors,
c'est
pour ça.
Vrai, il y avait
la réalité n'était pas celle-là.
Privée, hein. On pouvait posséder notre appartement, etc. Donc la propriété privée n'a jamais été complètement
bannie.
Ou bannie, ou abolie, ou
confisqué. Tout n'a pas été confisqué.
Non. Les usines, par exemple, étaient nationalisées. Ça s'arrêtait plus ou moins là.
Cette période, alors, mais comment dites-vous, si vous ne dites pas communiste, vous dites c'était la période comment?
C'était la période de mon enfance.
Mais alors du coup, est-ce que, c'est trop caricatural de dire, non, attendez, de ma question, de dire que, par exemple, dans cette période-là, la langue française était une langue d'évasion, par exemple?
On peut lire aussi. Oui, pourquoi pas, mais c'était par tradition. Je me souviens que, par exemple, vers l'an 1900, un étudiant sur trois apprenait le français dans ce pays. Autrement dit, il était présent partout. C'était presque comme considéré comme naturel, hein, de question de culture. Oui. Et puis pour s'opposer, évidemment, à la présence jugée oppressante de la culture allemande. Ça s'arrêtait là.
Les Allemands, à l'arrivée de ce régime sous influence soviétique, disons, à l'arrivée de ce régime, il y a toute une population allemande qui a quitté la République tchèque.
Ça remonte à la naissance de la République en 1918. Et puis, il y a l'entre-deux-guerres qui est marqué par les sympathies pour la France, considérées comme quasiment une sorte d'orientation, quasiment tourner vers la France, politique considérée comme officielle, je dirais. Mais en même temps, il y avait les Sudètes que l'on peut comparer à l'Alsace-Lorraine, finalement. Il y avait des sympathies de ce côté-là aussi. Et puis, je ne vais pas vous raconter, la position de la France était, disons, ambiguë à l'époque. L'Angleterre, pareil. On était un peu perdu, hein, à l'époque de Munich. Je n'ai pas l'intention d'évoquer les détails, parce que c'est toujours gênant.
Vous pouvez, vous pouvez. Non. Vous dites c'est gênant, mais c'est gênant pour qui?
C'est gênant pour tout le monde, je crois, oui. Ce sujet est un peu tabou. Entre nous.
Ah.
Ça nous empêche de... Vous voyez, on n'a pas trop envie d'entrer dans les détails.
Ouais.
Toute l'Europe avait peur, hein. Y compris l'Angleterre.
Suivez le guide en République tchèque.
Nous terminerons ce Suivez le guide à Prague avec Aleche au Café Slavia. Nous avons à nouveau rendez-vous avec Jarka pour nous rapprocher de l'ambassade de France.
Everybody like me. I like myself. Changed my life. This man had written his first concerto at the age of 4, his first symphony at 7, a full-scale opera at 12. Is talent like that written on the face?
Mozart!
On s'est arrêté devant un autre palais, mais là je lis des rillettes de canard, du foie gras flambé, des cuisses de lapin, un gratin de légumes.
C'est vrai. C'est un café de Paris qui se trouve ici.
Ah oui, j'avais pas lu café de Paris.
C'est
oui.
En plus le nom de.
Mais c'est
de
pas l'ambassade de France, il n'y a pas de café dans l'ambassade.
Pas encore. L'ambassade viendra dans un instant.
Oui, mais il n'y a pas de café. De toute façon, il n'y a pas de restaurant ouvert au public dans l'ambassade.
Normalement, nulle part. Mais ici, comme on voit, alors ça existe, le restaurant très français du côté de l'ambassade de France. Mais on est au palais des chevaliers de croix de Malte, encore toujours. Il y a vraiment deux minutes, on a vu l'église de Notre-Dame des Chevaliers de Croix de Malte. Et ici, on est d'ailleurs devant un très beau palais baroque. On se souvient aux architectes qui travaillaient ici autour de 1700-1710. Alors, les architectes comme Aliprandi ou bien Scotti avaient réalisé cette architecture pour des chevaliers de Croix de Malte. Et Milos Forman, metteur en scène tchèque, avait choisi Malastrana et salué spécialement pour préparer son film fameux qui est devenu décoré par beaucoup de prix. Voilà. Très réputé Amadeus.
Mozart Salieri.
Voilà, il faut dire que la confrontation de Mozart Salieri, ça résonne encore toujours, je crois.
Ce donc, palais, alors, a servi dans le film
par l'intérieur du palais.
Qui habitait là, alors, du coup
c'est... Dans le film, c'est Salzbourg.
Ah, dans le film, on est à Salzbourg.
Oui.
Ah oui, c'est ça, Salzbourg. On est à Salzbourg, oui. Mais c'est tourné ici, à Prague. Oui, oui. Ce qui est rigolo, c'est que... Oui, alors, on était à Salzbourg, c'est lié à Mozart, mais du coup, Mozart était à 100 mètres de Beethoven. Ah, oui. Puisque le vrai lieu où a vécu Beethoven est juste à côté. Mozart était à Prague aussi. Il n'était pas lié à ce bâtiment, Mozart.
Mozart, personnellement, avait visité Prague plusieurs fois. On connaît les vrais points où Mozart avait vécu, ou bien les palais que lui avait visités à l'invitation des différentes familles aristocratiques. Ce palais, ce n'était pas ça, parce que le palais avait appartenu à l'époque aux chevaliers de Croix-de-Malte.
C'est ça, c'était les chevaliers de la Croix-de-Malte.
N'est-ce pas? Ouais. Mais lui était invité chez Prémontré, lui était chez Jésuites, Mozart, mais pas ici, pas dans ce palais. Par contre, dans beaucoup d'autres palais de Prague, lui avait été invité, comme le palais Parta, le palais tourne, etc.
Un autre palais. Tu me disais, Yarka, hors micro, que tous ces palais donc, de familles nobles et riches de l'époque ont été aujourd'hui investis par des ambassades, des ministères, des bâtiments d'État, peut-être des hôtels aussi.
Oui, un exemple pur, c'est aussi en face de nous, c'est l'ambassade de France. On est vraiment à deux pas des chevaliers de Croix de Malte. On voit l'ambassade de France dans un très beau palais qui avait été réalisé au début du XVIIIe siècle, dans cette forme décorative, grâce à un architecte tchèque qui s'appelle l'architecte Kanika, et qui avait décoré des choses typiques comme des mascarons, etc. Mais il faut aussi mentionner que ce palais avait appartenu à la famille Bouquevoy, la famille française de la noblesse française, c'est-à-dire d'une famille qui est venue chez nous pendant les luttes de la guerre de 30 ans, pendant cette situation que les Tchèques protestants s'opposaient des Habsbourg catholiques. Et la famille Bouquevoy, la famille française, est arrivée ici pour assister à l'armée catholique, c'est-à-dire côté des Habsbourg. Ouais.
Alors la couleur, c'est une couleur plutôt qui tire vers l'orange. Qu'est-ce que tu dirais comme couleur?
Oh là là,
la couleur, c'est
le caractère vraiment de cette couleur.
La couleur
moi,
dominante.
Je dirais oui, l'orange foncé.
Bon, c'est une grosse ambassade, hein.
Oui.
Un grand, grand palais. Mais qui est ambassade depuis quand? Était-ce déjà l'ambassade de France durant la période pro-soviétique?
Déjà. Beaucoup plus tôt.
Même
c'était,
bien avant.
L'ambassade est arrivée déjà officiellement pendant la période de la Première République, c'est-à-dire juste après la Première Guerre mondiale. Mais ce siège des Français à Prague se développait déjà avant la formation de la Tchécoslovaquie, encore à l'époque de la monarchie des Habsbourg, parce que les Français étaient parmi les premiers qui avaient compris Prague comme la ville de la nation tchèque. C'était pas facilement accepté par les Habsbourg, que les Français sont en train de respecter une des nations de la monarchie comme la nation indépendante. Peut-être les Français ne l'ont pas tellement présenté comme la nation indépendante, mais déjà, c'était un pas très important pour accepter officiellement l'existence d'une nation dans la monarchie des Habsbourg.
Ringo, John, a pora zacznij bezleć, pisniczku pronieci plać. George, Ringo, John, a Paul, Breeze, hasnął za parku, stejdzie jak hazardni hrać. Hej, grali za łok trór, a więc wok jej strun dał. Ładne nam, Vincent, a znowu z ni zabrać, ja znowu z ni mam. Jeje, jeje, George, Ringo, John, a Paul.
Alors, il y a peut-être quelques Français qui prennent en photo la façade de l'ambassade de France, mais je suis persuadé qu'il y a bien davantage de touristes qui prennent en photo le mur en face, qui tournent le dos à l'ambassade de France pour photographier ce qu'on appelle le Lennon, comme John, le Lennon Wall.
C'est vrai, c'est le mur de John Lennon, qui existe à Prague depuis très longtemps. C'est-à-dire, ce mur avait existé même avant la révolution de velours. Les étudiants tchèques commençaient à développer, surtout les étudiants, mais les jeunes en total, il ne faut pas se limiter seulement par des étudiants, il faut dire que les gens pragois, les gens tchèques, avant la révolution de velours, venus ici célébrer John Lennon après sa mort. Et voilà, alors, ici, ils ont déjà décrit...
Donc, il y a des... alors, au départ, parce que c'est très recouvert, au départ, et donc c'est un mur qui a été tagué, mais il y a des fresques, donc des artistes vraiment qui ont peint des œuvres d'art représentant... Alors, qu'est-ce qu'on peut reconnaître aujourd'hui? J'ai l'impression un astronaute. Enfin, ça, est-ce que c'est l'illustration des chansons? Je ne sais pas.
Moi, je dirais pas tellement.
Non,
je dirais que ce sont des fantaisies.
Des fantaisies.
Des fantaisies très importantes. Là, on voit qu'il y a aussi le lion tchèque, mais bizarrement entouré par des étoiles.
C'est un peu européenne, les étoiles. C'est le bleu, voilà, de l'Europe aussi.
Ensuite, on voit beaucoup de couleurs qui sont bleues et jaunes, c'est-à-dire le symbole de l'Ukraine, qui est célébrée ici. On voit qu'il y a, c'est sûrement aujourd'hui le rappel aux gens qui arrivent ici, qu'ils sont en train de savoir et de respecter la liberté de l'Ukraine.
Donc c'est un mur de la liberté aussi.
Voilà. C'était toujours comme ça. Ouais. C'était vraiment un mur.
Mais après, chacun a laissé son nom ou écrit une phrase.
Rajoute des choses.
Donc
voilà.
C'est un mur en constante évolution, mais qui devient quand même probablement de plus en plus illisible. Il faut vraiment s'approcher et lire de très près. Au départ, je suppose qu'il y avait ces peintures, enfin vraiment ces fresques sur le mur, et puis après, les rajouts. Est-ce que toi, tu as écrit sur le mur quelque part?
Non, moi jamais. C'est bizarre, mais moi jamais, vraiment. Hein. Je suis persuadée que la grande majorité, ce sont vraiment des touristes qui arrivent aujourd'hui. Mais au début, c'était pas pareil. Hein. Au début, c'était des Tchèques qui vraiment avaient écrit ici leur petit mot. C'était encore sous le régime qui était, entre parenthèses, pro-soviétique.
Le
régime était officiel, mais les jeunes n'assistaient pas tellement. Alors, ils ont commencé à s'exprimer sur le mur. De temps en temps, à l'époque, la police tchécoslovaque venait vraiment blanchir,
recouvrir
hein, le mur, mais ils ont recommencé, les
donc
gens.
Après, ils ont arrêté.
Voilà.
Donc, il y avait cet espace de liberté, finalement.
Ah oui, tout à fait.
Ici, à Prague. Et aujourd'hui, ben, il y a beaucoup de touristes qui viennent prendre la photo. Mais il n'est pas trop tard, Yarka, tu pourras encore écrire sur le mur.
C'est vrai. Oui. Je vais en réfléchir.
Che cotto minuti!
Cosa?
È Cicallo,
È oramai
si fa.
No, è lungo il Monte Carlo.
Però si fanno fare
rinnovare anche il contratto per due anni.
Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Voilà. Aujourd'hui, c'est un jour particulier, un match important. Et on entend... parler italien et on entend parler anglais ici,
voilà,
à Prague.
C'est ça. Parce que je crois que c'est le match qui est vraiment très, très important. Le final entre des Italiens, c'est-à-dire le club de Florence et le club de Londres, c'est-à-dire des Anglais. Et on les voit partout. Ouais. On les voit comme
avec
des
avec les écharpes, bien sûr, mais ça se passe gentiment là. Tu m'as dit combien d'Anglais aujourd'hui sont venus pour le match ?
Ils sont annoncés à environ 18 000. Hein. C'est pas mal. Hein.
Maintenant, c'est la journée, tourisme et progressivement se mettre dans l'ambiance du match. Hein. Nous terminerons la visite du chœur historique de Prague avec Jarka dans une prochaine émission. Et terminons déjà celle-ci au café Slavia, de style art déco, avec Aleš qui nous raconte sa vie pragoise.
Suivez le guide à Prague.
Dans quelle ambiance, du coup, alors, oui. Grandi dans un environnement littéraire, on l'a dit, Aleš, mais en revanche, dans quelle ambiance pragoise avez-vous grandi, sachant qu'on ne peut pas dire que vous étiez prisonnier vraiment de la République tchèque et de Prague, puisque vous avez pu, vous, voyager, venir en France avant la fin des années 80.
Hein. J'ai eu de la chance, il faut dire que les frontières n'étaient pas complètement fermées. Hein. Alors, il y avait toujours un passeport et un visa, mais...
Mais peut-être pas pour tout le monde non plus.
Pas pour tout le monde, c'est vrai, c'est vrai. J'étais jeune et puis, par exemple, notre classe est allée en France entièrement. Hein.
Ah oui, quand même.
Le prof compris. Hein, c'est... Évidemment, on va vous raconter que, effectivement, au cours des années 50, c'était difficile au début. Ensuite, il y a une sorte de dégel à partir, mettons, des années 1960. Ensuite, il y a l'invasion et il y a certainement les années l'année 68 et puis l'invasion soviétique, évidemment.
Les fameux chars à Prague.
Les fameux chars à Prague. Mais on avait toujours vécu sur la mémoire, je crois. On s'était réfugié dans nos souvenirs et ça ne s'était jamais complètement effacé. Et puis, comme vous voyez, on pouvait se déplacer quand même.
Vous êtes venu en France et vous êtes revenu après, notamment pour étudier aussi.
Oui.
Et il faut dire que vous avez une passion, Aleš, pour la littérature et la poésie médiévale française. Vous êtes un médiéviste.
C'est-à-dire, j'ai commencé, c'est commencé par Rudebeuf.
Alors, si je fais un micro-trottoir en France, je demande qui est Rudebeuf. Pas gagné, même si Léo Ferré a chanté « Pauvre Rudebeuf ». Je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes se souviennent de Rudebeuf.
Oui.
On se demande si c'est un bœuf grossel ou pas. Pardon, c'est un surnom lié au bœuf vraiment à l'animal.
Oui, rude comme un bœuf, comme il disait.
Rude comme un bœuf.
Oui. C'était parce que j'avais fréquenté le séminaire de Jean Dufournet et Daniel Poirion aussi, des médiévistes. Et puis j'étais collègue, je me souviens, de Dominique Boutet qui était spécialiste de la littérature médiévale et ainsi de suite. Mon ami... Armand Strubel aussi, qui est notre compatriote, je crois, parce que alsacien. Grâce à ça, je suis resté fidèle à la poésie, à la littérature médiévale. Il faut dire que pour nous, ça signifie également beaucoup de choses, parce que notre littérature est également marquée, son apogée, c'est surtout le XIVe siècle. C'est l'époque de Charles IV, l'empereur.
Le fameux Charles Dupont. Dupont-Charles. Dupont, c'est pas son
Dupont.
Famille. Dupont.
Exactement, oui. Qui était l'oncle du roi de France, Charles V, qui est venu ici, à Prague, et puis aussi au château de Karlstein, qui était le siège de l'Empire romain, germanique.
Là, on a des passerelles, on a des ponts, justement.
On a des ponts, oui. Et ensuite, donc, je me suis intéressé à François Villon, qui avait été traduit plusieurs fois. Et puis, petit à petit, je ne sais pas pour quelle raison, je me suis intéressé énormément à la littérature à l'avant-garde, Apollinaire, par exemple, aussi, à cause certainement de son voyage à Prague, qui s'est promené ici, autour de nous.
C'était avant vous, là, vous ne l'avez pas connu. Mais peut-être, il y a des fantômes à Prague, peut-être.
Il y avait marqué l'avant-garde tchèque qui se rencontrait dans ce café. Et puis le chef de cette génération, si ça peut se dire comme ça, un certain Taïguet, traduisait Apollinaire simultanément et les poètes étaient en train d'écrire leur poésie à partir de l'œuvre d'Apollinaire, par exemple.
Donc, alors vous avez aussi étudié, vous avez même passé un doctorat à Paris, hein?
J'ai surtout été à l'école.
Vous avez étudié et enseigné à Paris,
enseigné les deux. Par la suite, ça nous faisait plusieurs séries de conférences consacrées à notre culture qui, on est en train d'essayer de s'expliquer, qui était très liée et qui était marquée par la France, quoi, en profondeur. Ça ne se sait plus ici et ça ne se sait plus non plus en France, malheureusement.
Zapal ten oheň ve mne, čeho se bojíš, zápalkou škrtni jemne. Zapal ten oheň ve mne, čeho se bojíš, zimou se celá třeseš, proč venku stojíš?
Pojď já, prosím tě, nenech sál, prosím se dál, nenech se.
Sedíme na pavlači, přichází ráno, tobě se lesknou oči. Sedíme na pavlači, přichází ráno a mně se hlava točí. Pojď já, prosím tě, nenech se, prosím se.
Et par la suite, Aleš, vous avez rencontré régulièrement, alors je ne sais pas si c'était les alliances françaises, enfin par le biais de l'ambassade, des attachés culturels présents, il y avait des invités français qui venaient et vous étiez proche, donc vous avez rencontré un certain nombre de personnalités françaises qui sont venues à Prague pour des événements culturels.
Oui.
Bon, il faut bien reconnaître que certains d'entre eux, même en France, on les a un peu oubliés aujourd'hui, mais vous, vous en avez un souvenir très, très vif.
Oui. Il y avait un certain nombre d'attachés culturels, de conseils culturels qui étaient poètes.
Ça, c'est comme Michel Louillot, alors.
Oui, mais déjà avant, oui. Il y avait...
Michel Louillot, qui est le Lorrain alsacien, enfin,
oui,
voilà.
Oui, exactement.
Citoyens du monde,
oui.
Plutôt à l'Est.
François Nourricier venait souvent.
Michel Louillot vivait à Prague,
à Prague. Oui, exactement, oui.
Vous en avez rencontré d'autres?
Oui, évidemment. Il y avait des conférences. L'Institut français était comme une sorte de...
Oui, c'était l'Institut français, c'est ça.
L'Institut français, rue Szczepanska, Saint-Étienne. Et ça avait été fondé, justement, avant l'entre-deux-guerres. Hein. C'est comme une sorte de temple de la culture française de l'époque.
Ouais. Il y avait du monde à ces conférences?
Souvent. Oui. Il y a la cinémathèque, il y avait la bibliothèque formidable. Je me souviens de tout ça, oui.
D'autres souvenirs de personnalités que la plupart des Français connaissent?
Je me souviens d'Edmond Charleroux.
Edmond Charleroux était comme... Bon, la présidente, elle était la présidente de l'Académie Goncourt. C'était peut-être pas en même temps, mais c'était une vraie... Alors, parfois on parle de personnalité, oui. Mais on pourrait dire que c'était une personnalité qui avait de la personnalité.
C'est le mot, oui. Il était formidable, sa présence était... tout le monde se taisait quand elle entrait, quoi. C'est une grande dame.
Et puis alors, effectivement, il y a des auteurs du passé qui sont venus à Prague, auxquels vous vous êtes intéressé, mais finalement, beaucoup d'écrivains faisaient des espèces de tours d'une grande Europe ou de l'Empire, ça dépend de quelle époque c'était, si c'était l'Empire austro-hongrois, etc. Il y avait un nombre assez important, peut-être, d'écrivains voyageurs.
Oui.
Je pense même à Goethe, mais qui n'était pas français.
Qui n'était pas français, non. Loin de là. Puisque vous évoquez le romantisme, plus ou moins, eh bien, c'est surtout Chateaubriand qui est venu. Il savait qu'il avait été traduit. Atala, ce récit avait été traduit dès le début du 19e, quasiment immédiatement après la... L'édition, la publication d'Atala.
Atala ou les amours de deux sauvages dans le désert est le premier succès littéraire en 1801 de François-René de Chateaubriand, dont le récit se déroulant sur les bords du Mississippi fait l'éloge du christianisme.
Par la suite, Chateaubriand est venu pour rencontrer Charles X, le roi de France, qui était en exil, mal vu, à moitié gênant pour tout le monde, qui siégeait donc au château de Prague.
y a le pont Charles IV, mais il n'y a pas le pont Charles X ici.
Il
hein.
n'y a pas le pont Charles X, mais le petit-fils du roi de France, donc, s'était, paraît-il, promené avec ce petit cortège royal, discrètement, sur le pont. Et donc, on se souvient.
On ne va pas faire le lien entre Rudebeuf et Chateaubriand, oui, parce que Chateaubriand, c'était du bœuf. On ne va pas effacer Chateaubriand.
À Prague, pour faire la révolution, on envoie une lettre et non une salve. Nous avions cru à une boutade. Eh bien non, c'est la vérité. La caméra ne ment pas. Où sont les Pragois, chez eux, en embuscade ou massés sur les places publiques? Non, ici, au parc Fouchik. Et ils s'amusent. Oh, ce n'est pas l'explosion de joie de la libération, mais un samedi très ordinaire où le citadin tchèque, encore piéton, se distrait le plus bourgeoisement du monde. Or, le monde, lui, de New York à Moscou, a les yeux tournés vers ce point de l'Europe qu'on juge chaud.
Votre printemps de Prague, à vous, Aleš?
J'étais jeune. J'étais... je considérais ça presque comme naturel. J'étais content. Je me souviens que c'était un grand soulagement, surtout pour mes grands-parents qui disaient « ça y est, c'est fini ». Moi, j'étais jeune et je vivais dans tout cela. Je considérais ça presque comme normal. Vous savez, ça avait commencé à partir, mettons, de 67, 8, le dégel. C'était de plus en plus ouvert. Je connaissais un peu les écrivains de l'époque. Moi, garçon, je les écoutais. Et puis oui, je
vous êtes petit quand même. Vous n'étiez pas celui qui parlait à l'époque.
J'étais pas celui qui parlait.
Pas l'orateur.
Pas l'orateur, non. C'était joyeux. D'autant plus la déception de l'arrivée, évidemment, de l'occupation du mois d'août de 60.
L'occupation soviétique.
Ça avait été un choc.
Vous y étiez, vous étiez allé... C'était tendu d'être...
C'était tendu, bah oui. C'était une déception absolue. C'était même une sorte de défaite, de résignation. Vous savez qu'il y avait aussi beaucoup de personnes qui avaient émigré à l'époque, qui avaient décidé de partir parce qu'ils ne voyaient pas d'issue, de solution. Il y en avait qui se disaient, mais on va rester parce que si on ne reste pas, c'est qui reste? On ne va pas complètement déserter ce pays quand rien ne va plus. Des réactions normales que vous comprenez certainement.
Diriez-vous que vous et que la population avaient un sens profond du patriotisme?
Certainement, oui. Ben oui. Il y avait des drapeaux partout. Il y a les gens souvent désespérés. D'autres qui s'engageaient déjà, qui s'organisaient et qui essayaient de militer.
Il y avait une résistance, il y a eu une résistance.
Elle était moins ouverte que dans d'autres pays plus... Question de tempérament national aussi, ouais. Probablement. Et puis d'expérience historique. Hein. On avait été toujours occupés dans notre passé. Ou presque, j'exagère à peine.
L'Empire austro-hongrois, c'était aussi une occupation.
Ce n'est plus ressenti comme ça aujourd'hui, comme occupation. Effectivement, il n'est pas vraiment de bon ton aujourd'hui de dire du mal de l'Empire austro-hongrois, alors qu'en réalité, quand vous étudiez les littératures de l'époque, c'est la résistance, effectivement. Certains écrivains étaient dans l'opposition, se révoltaient. Il y avait aussi quelques prisonniers. Aujourd'hui, on imagine que c'est du folklore.
On l'idéalise.
On idéalise, exactement. Oui.
Prague, the people of Czechoslovakia mourn deeply. Jan Palach, 21 years old, a philosophy student, had taken his life in a most terrible way in protest against the Soviet occupation of his country.
Par exemple, le suicide de Jan Palach. Vous vous en souvenez bien. On en a beaucoup parlé à Prague, où le régime a essayé de le cacher, enfin de le minorer. Ou...
Oui. Le mot suicide passe mal, jusqu'à nos jours peut-être. C'était pas vraiment un suicide, c'était une sorte de geste assez...
Il s'est donné la mort quand même.
Héroïque. Ouais,
voilà. Disons peut-être le sacrifice.
Sacrifice,
non,
c'est, je crois que c'est plutôt ça, oui. Suicide, c'est la résignation.
Alors que là, au contraire, c'est une forme d'engagement.
Oui, il était en mourant, il disait, mais je croyais que les gens allaient se réveiller davantage. C'était presque ses derniers mots, je ne me souviens plus exactement de ce qu'il avait dit, mais C'était la dépression collective, c'est effectivement.
Le monument à sa mémoire est arrivé sur le site, là, à l'endroit même où il s'est immolé, est arrivé bien plus tard. Hein.
Oui, bah oui, c'est relativement récent, oui.
Et la révolution de velours ?
C'est-à-dire, on se disait, ça y est, enfin, cette fois-ci, c'est évident, c'est clair, on y va. Ça avait quand même duré, et puis, vous savez, notre mentalité, je ne sais pas à quoi ça correspond, finalement, mais... On s'adapte souvent, assez facilement, à tout.
Au pire.
Et même au pire, oui. Ça nous permet de survivre.
Et du coup, depuis février 2022, les Tchèques se disent quoi avec l'invasion de la Russie en Ukraine ?
Il y a une solidarité assez large vis-à-vis de l'Ukraine. Je ne peux pas juger, mais j'ai assisté à toutes ces... manifestations au cœur de la ville. Vous voyez, ça s'appelle la place Venceslas, donc il y avait quand même des dizaines de milliers de personnes. En même temps, vous avez aussi certaines personnes qui considèrent qu'on n'est pas concerné, par exemple, qui font semblant que ça n'existe pas, qui ferment les yeux, qui prétendent que ce n'est pas notre histoire. Et j'ai même assisté à des scènes de refus. Concernant la présence, vous voyez, des immigrés ukrainiens, mais ça dépend des... c'est individuel, quoi. On ne peut pas juger comme ça. C'est trouver ça partout, hein. Malheureusement, oui, malheureusement.
C'est la fin de ce Suivez le Guide à Prague. Diekuje Jarka Jaroslava Novakova et Aleš Pohorský. Suivez le Guide à Prague, organisé par l'Office national tchèque de tourisme à Paris. Grand merci, Barbara Herrmann.
Není zač, s radostí. De rien, c'est avec plaisir.
Merci, Michel Louillot, pour le contact avec Aleš. Des guides conseillers, le petit futé République tchèque et Prague. Réalisation, Roman Feocchio. Le site internet tchèquetourisme.com.
Brzy na viděnou v České republice. A bientôt en République tchèque.
Dans un instant, ouvrez le dialogue avec Sarah Brunel.